Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Jacques-Yves Molinma.
Le Katanga est en préparatif de l'accueil du couple royal des Belges. Roi Philippe et reine Mathilde de Rai arrivent dans l'avant-midi de ce vendredi dans la capitale qu'ils préfèrent. Ils visiteront entre autres l'université de Lubumbashi et l'école belge. Et puis une dizaine de corps déjà retrouvés après un éboulement d'une mine artisanale à Samba, une localité près de Tikapa au Kasaï. Mais la recherche se poursuit pour retrouver d'autres corps. Une personne a toutefois été réanimée. Enfin, notre invité dans cette édition du journal est Maître Guy Mafuta. Il est président de AC Dibumba, club de football de Tikapa, évoluant en Ligue 2 du championnat national de l'UNAFOOT. Il est également secrétaire général de l'association des dirigeants des clubs. Il analyse les deux dernières défaites d'affilée des Léopards face au Gabon et au Soudan. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Le Haut-Katanga s'apprête à accueillir le roi des Belges Philippe et la reine Mathilde ce vendredi à la mi-journée. Certains sites où se rendra le couple royal sont aménagés. C'est notamment à l'université de Lubumbashi et l'école belge. Le village de Katanga, situé à plus de 90 km de Lubumbashi, où se trouve une forêt communautaire financée par la Belgique, Jean Gandou, sera aussi visité par le roi des Belges.
La ville de Lubumbashi qui se prépare à accueillir le roi de Belge revêt de sa plus belle robe. Les travaux d'assainissement se font notamment sur les principales artères qui seront empruntées par le couple royal. Et les immondices sont enlevés ça et là. C'est notamment sous la route de l'aéroport et à l'entrée de la ville. Parmi les sites qui seront visités par le roi Philippe, il y a l'université de Lubumbashi. Là aussi, le plus petit plat sont mis dans les grands pour la réussite de cet événement. C'est ainsi que l'amphithéâtre où le roi s'adressera aux étudiants reçoit les dernières touches. D'après une source proche du rectorat de l'université de Lubumbashi, 6000 étudiants sont attendus à cette manifestation, dont certains viendraient de la province du Lualaba. Après la signature du livre d'or de l'université de Lubumbashi par le roi Philippe dans la salle Monseigneur Tshibangu Tshishikoum, toute la délégation se dirigera dans l'amphithéâtre Kalaba, situé à quelques encablures de là, et 400 professeurs y sont également attendus. Le couple royal belge s'y rendra le samedi prochain au village Katanga, situé à près de 90 km de Lubumbashi dans le territoire de Kambove. Et c'est ce village qui a donné le nom de Katanga à la province. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Mais déjà hier, ici à Kinshasa, le couple royal belge, le président de la République, le premier ministre belge et le premier ministre congolais ont échangé avec le groupe consultatif des femmes d'exception autour de 4 tables rondes dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts. Il s'est agi d'écouter les femmes sur l'état des lieux de l'agenda genre et parité, la participation politique des femmes. Jeff Ngoyi, toutes ces femmes ont fait entendre leurs aspirations.
Directrice du cabinet adjointe du chef de l'État, professeur Nicole Boitia, explique les thématiques de ce tour de table.
L'autonomisation des femmes, de la jeune fille jusqu'à l'entrepreneuriat. Il y avait la participation politique des femmes dans la scène politique, les violences sexuelles, bien sûr, et domestiques, et il y avait la santé sexuelle et reproductive. Donc il s'agissait ici de parler des enjeux de ces thèmes-là, des défis, des avancées au point de vue interne par rapport à ces thèmes-là.
Karine Kankou, coordonnatrice de la dynamique des femmes candidates.
La loi électorale vient de connaître une réforme et aussi il y a eu un point innovant, c'est la linéa ajoutée à l'article 13 de la loi électorale qui dit que lorsqu'on aligne sur une liste de candidats 50-50, on ne paye pas la caution électorale.
Léonie Kandolo enchaîne.
Nous avons expliqué les aspirations des femmes tout en félicitant les avancées parce que 27% de femmes dans un gouvernement c'est beaucoup, mais nous sommes encore en dessous des besoins.
Madeleine Kalala évoque les violences basées sur le genre.
Notre groupe a parlé des violences sexuelles, violences conjugales.
Les autorités belges et congolaises ont été très réceptives aux préoccupations des femmes, d'après celles-ci.
Avant de boucler son séjour à Kinshasa, le roi de Belge Philippe et la reine Mathilde se sont entretenus avec le docteur Jean-Jacques Mouyembe et ont visité les installations de l'Institut National des Recherches Biomédicales, INRB. C'était hier, donc jeudi. C'était en présence du ministre congolais de la Santé. Au terme de leur échange, le directeur général de l'INRB s'est plaint de l'absence des subsides de l'État, Jeff Ngoyi.
Selon le professeur Mouyembe, une des faiblesses qu'il craint pour l'avenir de l'INRB après son départ qu'il a déjà préparé, c'est le fait que son institut fonctionne sans recevoir aucun subside de l'État.
Moi, personnellement, aujourd'hui, je peux partir. L'Institut ne va pas tomber parce que j'ai formé suffisamment de chercheurs et des chercheurs de haut niveau. Et puis, comme vous avez vu aussi, nous formons encore des jeunes chercheurs, ce que j'appelle donc les chercheurs de troisième génération. Bon, mais moi, je pense que le plus peur, ma peur, c'est le fait que l'Institut fonctionne sans subside de l'État. Ça, c'est la faiblesse qu'il faut absolument relever. On ne peut pas continuer de cette façon.
Pour le ministre de la Santé, sa présence avec son adjointe à l'INRBE traduit le soutien dont bénéficie Mouyembe du gouvernement.
C'est une reconnaissance du travail scientifique qui est fait en République démocratique du Congo. Toute la reconnaissance octroyée aujourd'hui à cet institut, ainsi qu'au docteur et professeur Mouyembe, reçoit les encouragements de notre gouvernement. Et nous espérons, comme cela a été dit, que la coopération entre la Belgique et la RDC continuera, surtout au niveau scientifique.
Le directeur de l'INRBE a témoigné de sa reconnaissance au couple royal pour cette marque de confiance en visitant ses bureaux.
Autre nouvelle, au Kasaï, un éboulement dans une mine artisanale occasionne des morts dans la localité de Samba, secteur de Bapende, près de la ville de Tchikapa. L'accident a eu lieu mardi dernier et jusqu'à hier mercredi. 10 corps des creuseurs artisanaux ont été retrouvés et la 11e personne a été réanimée, a indiqué Radio Kapi, le ministre provincial des mines. Les recherches cependant se poursuivent pour retrouver d'autres corps, indique la même source François Kadima.
L'éboulement a eu lieu mardi tard dans la soirée dans une mine de diamants. Les lieux sont situés à plus de 30 km du secteur de Bapende, à Tchikapa au Kasaï, dans le puits souterrain exploité par les creuseurs artisanaux. La cause de cet accident est la surcharge du sol qui est sablonné, indique des sources locales. Confirmant cette information, le ministre provincial de mines explique que c'est le non-respect des consignes par les exploitants artisanaux des diamants qui ont continué à creuser alors qu'il a été interdit de travailler sur cette mine de diamants. Aron Kachingu.
Ils n'ont pas tenu au respect des normes, c'est comme ça que le boulement a eu. La situation a évolué. Avant-hier, c'était 6 et ce matin, nous sommes autour de 10 maintenant. Un a été réanimé, il a repris la vie, mais il y a 10 corps qui ont été exhumés.
Ces puits souterrains dans lesquels ces creuseurs exploitent sont communément appelés Majimba. Il y a une année, un autre éboulement s'est produit sur les lieux, occasionnant 2 morts. Une occasion pour le ministre provincial de mines d'appeler les creuseurs artisanaux au respect des consignes données pour éviter ce genre de situation.
Nous compatissons et nous appelons les artisanaux à respecter les normes.
Entre-temps, les autorités locales indiquent que le bilan livré jusque-là reste provisoire et les équipes continuent les recherches sur place pour y trouver d'autres corps. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
On revient ici à Kinshasa. La question des arriérés des pétroliers est totalement prise en charge par le gouvernement congolais. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général à l'économie nationale. Parlant par exemple de la société Sona Hydro, Célestin Tuité a affirmé que cette entreprise a reçu du gouvernement 10 millions de dollars américains en termes de subventions. Par contre, pour les entreprises Kobi et SEP Congo, le gouvernement est en train d'y travailler afin de leur permettre de renouveler les stocks. Célestin Tuité l'a dit hier jeudi au cours d'un point de presse ici à Kinshasa. Il est au micro de Paul Matendo.
Concernant particulièrement Sona Hydro, la haute hiérarchie de la République avait décidé qu'on puisse accorder une subvention à cette société à hauteur de 10 millions de dollars. Et son montant a été mis à la disposition de la Sona Hydro à travers le ministère de l'économie, à travers la structure des prix. Et cette société possède en ces jours 10 millions de dollars pour lui permettre quand même de décoller. Entièrement payé. Pas un prêt, mais une subvention. La question de Kobil et la question de SEP Congo sont déjà prises en charge. Nous sommes en train d'y travailler pour voir comment il faut aider ces sociétés à aller de l'avant. Eh bien, déjà, je dois vous dire que depuis qu'il est là, le ministre Nicolas Kazadi, il y a eu déjà 2 paiements, des pertes et manques à gagner, dans un délai très record. Et aussi, vous devez savoir que les pétroliers du Sud, c'est pour la première fois que l'État congolais a payé leurs pertes et manques à gagner.
Direction Ituri. Plus de 200 personnes déplacées ont été tuées en l'espace de 9 mois par des hommes en armes dans des sites où elles sont hébergées dans les territoires de Djougou. C'est le chef du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR Bounia qui l'a dit mercredi dernier. C'était à l'issue d'un atelier de 2 jours qui a réuni des acteurs humanitaires ainsi que les gestionnaires des sites des déplacés. L'objectif de cette formation est de renforcer les mécanismes de sécurité dans ces sites en vue de mieux assurer la coordination des urgences. Ézéchiel Mouzalia.
Au moins 16 attaques d'hommes en armes identifiées aux assaillants de la Codeco ont été enregistrées en l'espace de 9 mois dans différents sites des déplacés dans le territoire de Djougou. Selon le HCR Ituri, 200 déplacés ont été tués au cours de ces attaques. Le dernier cas est celui du site de Loda près de Fataki où 15 personnes déplacées dont 10 enfants ont été lâchement abattus en avril dernier par ces inciviques. C'est ce qui a justifié la tenue de cet atelier de 2 jours organisé par le HCR sur les mécanismes de protection des sites des déplacés. Denis Oulay, chef de bureau de HCR Ituri.
Les sites des déplacés sont victimes d'attaques des hommes en armes où on a eu à déplorer de nombreuses personnes qui ont été tuées. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que on est dans un processus de plaidoyer pour une sécurisation forte de ces sites des déplacés. L'une des actions qu'on fait déjà, c'est de travailler avec le gouvernement provincial.
Selon le HCR Ituri, un autre défi est celui des multiples besoins humanitaires qui nécessitent des interventions d'urgence. Signalons que l'Ituri compte à ce jour près de 2 millions de déplacés qui sont disséminés dans 64 sites selon les chiffres du HCR. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Pendant ces temps au Nord Kivu, les nouvelles attaques de la rébellion du M23 ont gravement affecté les fidèles et les infrastructures des églises chrétiennes dans la région. Ce constat a été déploré par la communauté baptiste au centre de l'Afrique. C'est à l'issue de l'assemblée annuelle qui a réuni mardi et mercredi dernier à Goma les principaux leaders ecclésiastiques de cette communauté. Selon leur porte-parole, après évaluation de la situation sécuritaire en province, un appel à la mobilisation des fidèles a été lancé. C'est pour soutenir l'armée et le gouvernement congolais pendant ce moment sensible. Le pasteur Kassere Kationgo Festo est au micro de Bernard Nyangi.
Les membres de l'assemblée annuelle du poste Goma saluent tout d'abord la volonté et les efforts du gouvernement qui, au travers des forces armées de la République démocratique du Congo, a réussi à restreindre l'agression du territoire national par le M23 et ses alliés. Nous saluons également l'éveil de la conscience de la population congolaise qui a contribué financièrement, matériellement, ainsi que par leurs prières, afin de remonter le moral de nos vaillants militaires sur les champs de bataille. Nous compatissons aussi avec les populations victimes dont certaines ont perdu les leurs. Les autres se sont déplacées abondamment, sans compter l'impact négatif sur la vie de l'Église et sur les infrastructures. Recommandons à la communauté internationale de reconnaître que la RDC est agressée et continuer à alerter les services de sécurité les plus proches. Encourageons les fidèles de continuer à mobiliser les fonds et collecter les biens matériels en vue de soutenir nos vaillants combattants sur le front.
Dans la province du Kwilu, le maire de la ville de Bandundu, Ephrem Kinda, invite sa population à rendre la ville propre. Cela après avoir constaté que les habitants ont perdu les bonnes et anciennes habitudes d'assainir la ville et d'avoir des trous à ordures dans des parcelles. Dans le souci de rendre la ville assainie, il a réuni mercredi 8 juin dernier dans son cabinet tous les responsables des confessions religieuses de la ville pour leur sensibiliser à ce propos afin d'éviter certaines maladies. Irène Bouma.
Auparavant connue comme une ville salubre, Bandundu a perdu sa plus belle robe. Elle devient de plus en plus sale, des poubelles sont observées par-ci par-là. C'est le cas par exemple du port sable et certains centres de négoces. Des herbes poussent dans certains lieux publics comme des champignons. Dans des parcelles des gens, des trous à ordures n'existent presque plus et les immondices sont déversés sur la place publique et dans des caniveaux, empêchant ainsi la bonne canalisation des eaux de pluie. C'est dans cette optique que le maire de la ville qui entend faire de la salubrité des bandundusiennes a réuni mercredi dernier les responsables des églises pour les sensibiliser. Dans son adresse, il a appelé les habitants de Bandundu à assainir leur milieu de vie. Ephrem Kinda Aboui.
J'ai fait appel aux pasteurs et qui sont avec les fidèles, leur demander que les gens ne jettent pas des immondices sur les artères principales. Que les gens aient des habitudes de creuser un trou dans des parcelles. Nous voulons que notre ville soit propre. Mettez les immondices quelque part, vous les brûlez, ils doivent aussi sarcler leurs parcelles.
Pour Ephrem Kinda, un bon assainissement de la ville permet d'éviter certaines pathologies telles que le paludisme et autres. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Une nouvelle coalition de la société civile voit le jour en Centrafrique. Le groupe d'action des organisations de la société civile pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016, ou G16, elle compte mobiliser contre le projet de réforme constitutionnelle des partisans du président Faustin Archange Touadéra, qui permettrait à celui-ci de briguer un troisième mandat. Le G16 reconnaît la légitimité du président Faustin Archange Touadéra. C'est pour cela qu'il lui demande de ne pas se lancer dans le projet du troisième mandat. Et puis, l'assaut du Capitole d'ici janvier 2021 aux États-Unis a été la culmination d'une tentative de coup d'État, a jugé jeudi 9 juin une commission américaine d'enquête parlementaire. Cette dernière a placé Donald Trump au centre d'un complot visant à le maintenir au pouvoir dans une journée d'une violence politique rare aux États-Unis sous les encouragements du républicain. Le rapport de la commission d'enquête livré en direct sur les chaînes de télévision américaines est dévastateur pour Donald Trump.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est Maître Guma Futaka Bongo, président de AC Dibumba, club de football de Tikapa évoluant en Ligue 2 du championnat national de la Linafoot. Il est également secrétaire général de l'association des dirigeants des clubs. Il analyse les deux dernières défaites d'affilée des Léopards face au Gabon et face au Soudan. Il estime que le mal est très profond et qu'il est temps de s'arrêter en remettant les compteurs à zéro pour que le football congolais puisse décoller à nouveau. Maître Guma Futaka Bongo est interrogé par Alain Irung. Suivez.
Maître Guma Futaka Bongo, bonjour. On a suivi tous ensemble la deuxième débâcle des Léopards. À quoi pouvez-vous attribuer cette contre-performance?
D'abord, j'aimerais partager ma douleur à celle de tous les Congolais qui aiment le football, qui étaient comme moi très déçus, non seulement de la prestation des Léopards, mais aussi de la suite même du championnat en soi. C'est une défaite qui était prévisible par rapport à l'organisation même du football. Vous savez, le football, ce n'est pas seulement le match qu'on voit sur la pelouse, c'est toute une préparation, c'est toute une organisation. Et là, ça démontre clairement que nous avons une organisation qui ne mérite même pas ce nom-là. Nous sommes vraiment, vraiment au bas de l'échelle et je pense que le mal est plus profond que ça. Mais ce qui apparaît déjà à l'œil humain, c'est le staff technique. Par staff technique, nous voyons déjà l'entraîneur. Pour ma part, j'ai toujours été très sceptique lors de son recrutement et pire encore, lorsqu'on a eu à être éliminé au Maroc, la reconduction de ce même coach-là. Moi, personnellement, Hector Cooper ne m'a jamais convaincu. Déjà, la communication entre lui et les joueurs, elle n'est pas très efficace. Vous savez, en tant que dirigeant, le résultat d'un match est aussi fonction de la communion ou de la communication du coach avec ses joueurs. Et moi, à la mi-temps, je me suis dit, c'est là où le coach doit prendre ses responsabilités. Ce qui veut dire remotiver les athlètes, leur dire ce qu'il faut faire sur le terrain et même aller jusqu'à les gronder. Mais j'imaginais comment Cooper pouvait faire ça quand il doit passer par des interprètes. Et aussi, déjà au niveau du Maroc, quand les grands joueurs ont eu à le défier clairement, déjà c'est un coach qui avait perdu de personnalité. Un coach comme ça, je ne le vois pas mener les troupes jusqu'à la victoire. Je suis vraiment désolé, mais je crois que c'est un problème au sein de l'effectif, tout en reconnaissant que le mal est très profond. Le mal va au-delà du coach. Le mal touche l'organisation en soi du secteur de football.
On n'a pratiquement pas d'ossature locale. C'est à peine que le championnat marche tant bien que mal. Comment peut-on vouloir des résultats quand la préparation ne suit pas?
J'ai même dit que j'allais choquer les Congolais en disant que pour moi, il faut carrément s'arrêter et repenser la gestion même du football congolais, repartir sur des bases. Aussi longtemps, je l'ai même tweeté, aussi longtemps qu'on n'aura même pas de vision qui dépasse 6 mois, aussi longtemps que la gestion du sport, du football congolais se limitera à dire, ah, les prochains Cannes, les prochaines Cannes, les prochains mondiales. Donc 6-7 mois plus tard, on ira nulle part. On ira d'improvisation en improvisation. Ça, c'est pas sérieux pour une si grande nation de football. Il faut à un moment donné s'arrêter, se dire qu'est-ce que nous voulons dans les 3 ans, dans les 4 ans, dans les 5 ans qui viennent, quelle image nous voulons de notre football. Ce n'est que dans ces conditions-là qu'on doit établir une vraie politique sportive. Dire ce que nous voulons atteindre dans les 3, 4, 5, 6 ans, même 10 ans après, et nous aurons des résultats. Vous l'avez dit, on a un championnat qui est délétère, qui s'est arrêté pendant 3, 4 mois. Donc, l'expertise ou les talents locaux n'ont pas su évoluer. Vous avez un effectif qui n'est composé que de nos frères qui évoluent à l'étranger. De tous ceux qui ont joué, combien tiennent un match de 90 minutes? minutes. La plupart sont sur le banc, sont des remplaçants. Et ici, ils viennent comme titulaires. Est-ce qu'ils ont le temps de jeu nécessaire? Toutes ces questions-là, une équipe se forme. Une équipe, c'est une âme qui est née de la formation. Mais là, vous avez des juxtapositions des talents. Prises individuellement, nous avons des talentueux. Vous ne me direz pas que Kebano n'est pas talentueux, la même chose Meshack et autres. Mais il se retrouve combien de fois? En une séance, deux séances, avec quel coach? Avec quel staff? Avec quel environnement? Tout ça, c'est de l'impossible. Le résultat relève du miracle. Or, aujourd'hui, le football, c'est aussi une science.
La RDC dispose d'une loi sportive qui devait servir de boussole à l'organisation du sport. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette loi?
D'abord, la première des questions, quel est ce gestionnaire du football congolais qui l'a déjà lu? Moi, je mets à défi ceux qui gèrent le football congolais que quelqu'un me dise qu'il a déjà lu cette loi de bout en bout. Je ne pense pas qu'on l'ait lu. Ça, c'est la première des choses. Et quand on l'a lu, cette loi doit avoir des mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement n'ont jamais été prises. Donc, nous nous limitons juste à spéculer. Vous lisez, c'est une loi qui est très bonne, moi, je pense. Moi, je l'ai déjà lu de bout en bout. Je pense que si on essaie d'appliquer ce qu'il a dedans, on peut avoir un début de résultat. Mais on ne lit pas, on se limite seulement à dire c'est quoi la prochaine qualification. Est-ce le CHAN? Est-ce le CAN? Est-ce le mondial? Pour voir comment mobiliser les ressources. Nous injectons beaucoup d'argent en aval. Mais c'est l'amont qui est important. La formation des joueurs, les équipes d'âge, qu'est-ce que nous en faisons? Les tournois interscolaires, qu'est-ce que nous en faisons? L'infrastructure.
Maître Guy Mafouta, merci.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.